Marchande de sable, conte de Grimm. Le fidèle Jean. Il était une fois un roi qui était malade et pensait « Ce lit où je suis couché sera sans doute mon lit de mort. » Alors il dit « Faites-moi venir le fidèle Jean. » Le fidèle Jean était son serviteur préféré et il s'appelait ainsi parce qu'il lui avait été si fidèle toute sa vie. Quand il fut à son chevet, le roi lui dit « Mon fidèle Jean, je sais que ma fin approche et je n'ai pas d'autre souci que celui de mon fils. Il est encore à un âge tendre où on ne sait pas toujours quelle partie prendre. Et si tu ne me promets pas de l'instruire de tout ce qu'il doit savoir et d'être son père adoptif, je ne pourrai pas fermer les yeux et en paix. » Alors le fidèle Jean répondit « Je ne l'abandonnerai pas et le servirai fidèlement, dût-il m'en coûter la vie. » Et le vieux roi lui dit « En ce cas, je mourrai sans crainte et en paix. » Puis il ajouta « Après ma mort, tu lui montreras tout le château, toutes les chambres, les salles, les souterrains et les trésors qui y sont. » Mais tu ne lui montreras pas la dernière chambre au bout du long couloir où est caché le portrait de la princesse du toit d'or. S'il aperçoit ce portrait, il concevra pour elle une passion violente et tombera en syncope et sera à cause d'elle exposé à de grands malheurs. C'est de cela que tu dois le protéger. » Et quand le fidèle Jean eut encore une fois donné sa parole au vieux roi, celui-ci se tut, posa sa tête sur l'oreiller et mourut. Quand le vieux roi eut été porté en terre, le fidèle Jean raconta au jeune roi ce qu'il avait promis à son père sur son lit de mort et dit « Je tiendrai certainement ma promesse. Je te serai fidèle comme à lui et dût-il m'en coûter la vie. » Quand le deuil fut passé, le fidèle Jean lui dit « Il est temps à présent que tu vois ton héritage. Je vais te montrer le château de ton père. » Alors il lui fit tout visiter de haut en bas et lui montra toutes les richesses et les chambres somptueuses. Mais il n'ouvrit pas cette unique chambre où se trouvait le portrait dangereux. Or, le portrait était placé de telle sorte que, lorsque la porte s'ouvrait, le regard tombait droit sur lui, et il était si magnifiquement fait qu'on eût dit qu'il avait un corps et vivait, et qu'il n'y avait rien de plus charmant et de plus beau dans le monde entier. Cependant, le jeune roi ne fut pas sans remarquer que le fidèle Jean passait toujours devant la même porte, et il lui dit « Pourquoi ne m'ouvres-tu jamais cette porte-là ? » ?»« Il y a quelque chose dedans, » répondit-il, « qui te causera une grande frayeur. » Mais le jeune roi répondit « J'ai vu tout le château, je veux savoir aussi ce qu'il y a là-dedans. » Il alla donc et voulut forcer la porte. Alors le fidèle Jean le retint et lui dit « J'ai promis à ton père, avant sa mort, que tu ne verrais pas ce qu'il y a dans cette chambre. Il pourrait s'en suivre de grands malheurs pour toi et pour moi. » « Que non, » répondit le jeune roi, « ma perte est bien plus sûre si je n'y entre pas. Je n'aurai de répit ni jour ni nuit que je ne l'ai vu de mes propres yeux. Je ne quitterai pas la place tant que tu ne m'auras pas ouvert. » Alors le fidèle Jean vit qu'il n'y avait plus rien à faire et le cœur serré, en soupirant à fendre l'âme, il chercha la clé dans son grand trousseau. Quand il eut ouvert la porte, il entra le premier, pensant cacher le portrait afin que le roi ne le vit pas avant lui, mais à quoi bon ? Le roi se dressa sur la pointe des pieds et regarda par-dessus son épaule. Et quand il aperçut le portrait de la jeune fille qui était si splendide et étincelée d'or et de pierreries, il tomba sans connaissance. Le fidèle Jean le releva, le porta sur son lit et se dit, soucieux, « Le malheur est arrivé. Dieu, que va-t-il advenir ?» Puis il donna du vin pour le réconforter jusqu'à ce qu'il retrouvât ses esprits. Le premier mot qu'il prononça fut « « Ah, qui est la femme de ce beau portrait ?»« C'est la princesse du toit d'or, » répondit le fidèle Jean. Alors le roi continua. « Mon amour pour elle est si grand que si toutes les feuilles des arbres avalaient des langues, elle ne pourrait pas l'exprimer. Je mets ma vie en jeu pour l'obtenir. Tu es mon fidèle Jean, il faut que tu m'aides. » Le fidèle Jean réfléchit longtemps à la façon d'entreprendre la chose, car il serait difficile d'aller simplement se présenter à la princesse. Enfin, il imagina un moyen et dit au roi « Tout ce qui l'entoure est d'or, table, chaise, plat, coupe, bol et tout ustensile de ménage. Dans ton trésor, il y a 5 tonnes d'or. Donne-en une aux orfèvres du royaume, qui en feront toutes sortes de vases et de récipients, et toutes sortes d'oiseaux, de bêtes sauvages et fabuleuses. Ça lui plaira. Nous irons la trouver avec ses objets et nous tenterons notre chance. » Le roi envoya chercher tous les orfèvres. Ils durent travailler jour et nuit jusqu'à ce que fussent enfin achevées les pièces les plus superbes. Lorsqu'on eut chargé tout cela sur un navire, le fidèle Jean revêtit des habits de marchand et le roi dut faire de même pour se rendre tout à fait méconnaissable. Puis ils prirent la mer et naviguèrent tant et si bien qu'ils arrivèrent à une ville où habitait la princesse du Toit d'Or. Le fidèle Jean dit au roi de rester seul sur le navire et de l'attendre. « J'amènerai peut-être la princesse avec moi, » dit-il. « C'est pourquoi veillez à ce que tout soit en ordre. Faites exposer les objets d'or et parez tout le bateau. » Là-dessus, il fit une croix. Il fit un choix de toutes sortes d'objets qu'il mit dans son tablier, descendit à terre et se dirigea tout droit vers le château royal. Quand il arriva dans la cour, il vit à la fontaine une belle jeune fille qui avait deux seaux d'or à la main et puisait de l'eau. Et quand elle se retourna, voulant emporter l'eau scintillante, elle aperçut l'étranger et lui demanda qui il était. « Je suis marchand, » répondit-il, et ouvrant son tablier, il lui montra ce qu'il y avait dedans. « Oh, la belle vaisselle d'or !» s'écria-t-elle. Puis elle posa ses seaux et admira les objets l'un après l'autre. La jeune fille dit alors, « Il faut que la princesse voie cela. Elle prend tant de plaisir aux objets d'or qu'elle vous achètera tout. » Elle le prit par la main et le conduisit en haut, car c'était la camériste. Quand la princesse vit les articles, elle fut toute joyeuse et dit, « C'est si joliment travaillé que je t'achète tout. » Mais le fidèle Jean répondit, « Je ne suis que le serviteur d'un riche marchand. Ce que j'ai là n'est rien à côté de ce que mon maître a placé sur son navire. Et ce sont les choses les plus ingénieuses et les plus précieuses qui furent jamais façonnées en or. » Elle voulut qu'on lui montât tout, mais il dit, « Il y en a tant qu'il faudrait de nombreux jours, et plus de salles pour les ranger que n'en contient votre maison. » Alors sa curiosité et son envie ne reprirent de plus belle, et elle finit par dire, « Conduis-moi au navire, je veux y aller moi-même et contempler les trésors de ton maître. » Alors le fidèle Jean, tout heureux, la conduisit au navire, et quand le roi l'aperçut, il vit que sa beauté était encore plus grande que sur le portrait, et il ne douta pas que son cœur n'allât éclater. Elle monta sur le bateau et le roi la fit entrer, mais le fidèle Jean resta en arrière, auprès du timonier, et lui dit de démarrer. « Mettez toute voile dehors, que le navire vole comme un oiseau dans les airs. » À l'intérieur, cependant, le roi lui montrait la vaisselle d'or, chaque pièce séparément, les plats, les coupes, les bols, les oiseaux, les bêtes sauvages et les animaux fabuleux. Tandis qu'elle contemplait tout cela, les heures passèrent et dans sa joie, elle ne remarqua pas que le navire voguait au large. Quand elle eut admiré la dernière pièce, elle remercia le marchand et voulut rentrer, mais en s'approchant du bord du bateau, elle vit qu'il était en haute mer et s'éloignait à toute voile. « Ah ! » s'écria-t-elle, épouvantée. « On m'a trompée ! J'ai été enlevée et je suis tombée au pouvoir d'un marchand, plutôt mourir !» Mais le roi la prit par la main et lui dit, « Je ne suis pas marchand, je suis roi et je ne te suis pas inférieur par la naissance. » Mais que je t'ai enlevé par ruse, cela n'est dû qu'à mon trop grand amour. La première fois que j'ai vu ton portrait, je suis tombée par terre, sans connaissance. » En entendant ces mots, la princesse du Toit d'Or fut apaisée et son cœur sentit un penchant pour lui, en sorte qu'elle consentit volontiers à devenir sa femme. Or, tandis qu'il s'éloignait en haute mer, le fidèle Jean, qui était assis à l'avant et faisait de la musique, aperçut dans les airs trois corbeaux qui s'en venaient à tire d'aile. Alors il cessa de jouer et écouta leur conversation, car il comprenait fort bien leur langage. L'un d'eux s'écria, « Eh, le voilà qui conduit chez lui la princesse du Toit d'Or !»« Oui, » répondit le deuxième, « il ne l'a pas encore. » Et le troisième, « Mais il l'a, elle est avec lui sur le bateau. » Le premier reprit alors, « La belle avance, quand ils seront à terre, un cheval roux bondira devant lui et il voudra se hisser sur son dos. S'il le fait, il sera emporté au galop avec lui et disparaîtra dans les airs, si bien qu'il ne verra plus jamais sa fiancée. » Le deuxième dit, « N'y a-t-il pas de remède ? » ?»« Oh si, il faut qu'un autre se mette vivement en selle, prennent le fusil qui doit se trouver dans les fontes et tuent le cheval d'un coup de feu. Alors le jeune roi sera sauvé. Mais qui c'est cela ? Et celui qui le saurait, le lui dirait, serait changé en pierre depuis les orteils jusqu'aux genoux. Alors le deuxième dit « J'en sais davantage. Une fois le cheval tué, le jeune roi n'aura pas encore sa fiancée. Quand ils arriveront ensemble au château, ils trouveront là, posée sur un plat, une chemise nuptiale, factice, qui a l'air d'être lisse, tissée d'argent et d'or, mais qui n'est que de poids et de soufre. S'il s'en revêt, il sera brûlé jusqu'à la moelle des os. » Le troisième dit « N'y a-t-il pas de remède ?»« Oh si !» répondit le deuxième. « Si quelqu'un saisit la chemise avec des gants et la jette au feu afin qu'elle s'y consume, le jeune roi sera sauvé. Mais qui c'est cela ? Et celui qui le saurait le lui dirait serait changé en pierre depuis les genoux jusqu'au cœur. » Le troisième dit alors « J'en sais davantage. Une fois la chemise nuptiale brûlée, le jeune roi n'aura pas encore sa fiancée. Après la noce, quand le bal s'ouvrira et que la jeune reine se mettra à danser, elle pâlira subitement et tombera comme morte. Et elle mourra si quelqu'un ne la relève pas et ne lui tire pas du sein droit trois coups de sang qu'il devra aussitôt recracher. Mais si celui qui sait cela le disait, il serait changé en pierre de la tête aux pieds. » Quand les corbeaux eurent échangé ces paroles, ils continuèrent leur vol et le fidèle Jean avait tout compris. Mais à partir de cet instant, il se montra silencieux et triste. Car s'il cachait à son maître ce qu'il avait entendu, celui-ci serait malheureux. S'il le lui révélait, c'est lui-même qui devrait payer le prix de sa vie. Enfin, il se dit « Je vais sauver mon maître, et dussé-je moi-même en périr ?» Or donc, comme ils arrivaient à terre, un splendide coursier roux s'en vint au galop. « Eh bien, dit le roi, il me portera au château. » Et il voulut se mettre en selle. Mais le fidèle Jean prit les devants. Il s'élança vivement, tira le fusil des fontes et abattit le cheval. Alors les autres serviteurs du roi, qui n'aimaient pas beaucoup le fidèle Jean, s'écrièrent « Quelle honte de tuer cette belle bête qui devait porter le roi en son château !» Mais le roi répondit « Taisez-vous et laissez-le faire. C'est mon fidèle Jean, qui sait à quoi cela peut être bon. » Ensuite, ils allèrent au château et là, dans la salle, il y avait un plat où était posée la chemise nuptiale factice, et elle avait bel et bien l'air d'être d'or et d'argent. Le jeune roi s'en approcha et voulut la prendre, mais le fidèle Jean l'écarta, saisit la chemise avec des gants, la jeta vivement au feu et la laissa se consumer. Les autres serviteurs recommencèrent à murmurer et dirent « Voyez donc, voilà maintenant qu'il brûle la chemise nuptiale du roi. » Mais le jeune roi dit « Qui sait à quoi cela peut être bon ? « Laissez-le faire, c'est mon fidèle Jean. » Puis on célébra les noces. Le bal commença et la mariée entra à son tour dans la danse. Alors le fidèle Jean fit attention et observa son visage. Tout à coup, elle pâlit et tomba comme morte sur le sol. Alors il se précipita vers elle en toute hâte, la releva et la porta dans une chambre. Puis il la coucha, s'agenouilla devant elle, suça les trois gouttes de sang de son sein droit et les recracha aussitôt. Peu après, elle reprit son souffle et se remit. Mais le jeune roi avait vu ce qui s'est passé et, ignorant pourquoi le fidèle Jean l'avait fait, il en conçut de la colère et s'écria « Qu'on le jette en prison !» Le lendemain, le fidèle Jean fut condamné et conduit à la potence. Et quand il fut en haut, prêt à être exécuté, il dit « Tout homme qui doit mourir a le droit de parler une fois encore avant sa fin. Aurais-je ce droit aussi ?»« Oui, répondit le roi, je te l'accorde. » Le fidèle Jean dit alors « Je suis injustement condamné et je t'ai toujours été fidèle. » Et il raconta comment il avait entendu la conversation des corbeaux en mer et tout ce qu'il avait dû faire pour sauver son maître. Alors le roi s'écria « Oh, mon fidèle Jean, grâce, grâce, faites-le descendre !» Mais à l'instant où il avait prononcé le dernier mot, le fidèle Jean était tombé, inerte, et s'était changé en pierre. Le roi et la reine en furent très affligés et le roi dit « Ah, comme j'ai mal récompensé sa grande fidélité !» Et il ordonna de relever l'image de pierre et de la placer dans sa chambre, à côté de son lit. Chaque fois qu'il la regardait, il se mettait à pleurer et disait « Ah, que ne puis-je te ranimer, mon fidèle Jean !» Il se passa un certain temps, puis la reine mit au monde deux jumeaux, deux petits garçons qui grandissaient et faisaient toute sa joie. Un jour que la reine était à l'église et que les deux enfants étaient en train de jouer auprès de leur père, celui-ci regarda une fois de plus l'image de pierre avec des yeux pleins de tristesse. soupira et dit « Ah, que ne puis-je te ranimer, mon fidèle Jean ?» Alors la pierre se mit à parler et dit « Oui, tu peux me ranimer, à condition que tu me sacrifies ce que tu as de plus cher. » Alors le roi s'écria « Je donnerai pour toi tout ce que j'ai au monde. » Et la pierre continua « Si de tes propres mains tu coupes la tête de tes deux enfants et que tu me frottes avec leur sang, je recouvrerai la vie. » En entendant qu'il devait tuer lui-même ses enfants chéris, le roi fut épouvanté, mais il pensa à sa grande fidélité et que le fidèle Jean était mort pour lui. Il tira donc son épée et décapita ses enfants de sa propre main. Et quand il eut frotté la pierre avec leur sang, la vie lui revint et le fidèle Jean se trouva frais et dispos devant lui. Il dit au roi, « Ta fidélité ne sera pas sans récompense. » Il prit les têtes des enfants, les plaça sur leurs épaules et frotta les plis avec leur sang. En un clin d'œil, ils furent sains et saufs, se mirent à sauter de tous côtés et continuèrent de jouer comme si rien ne s'était passé. Le roi fut empli de joie et quand il fit venir la reine, il cacha le fidèle Jean et les deux enfants dans une grande armoire. Quand elle entra, il lui dit « As-tu prié à l'église ?»« Oui, dit-elle, mais je n'ai cessé de penser au fidèle Jean qui a connu un sort si malheureux à cause de nous. » Alors il dit « Ma chère femme, nous pouvons lui rendre la vie, mais cela nous coûtera nos deux petits garçons. Il nous faudra les sacrifier. » La reine pâlit et fut épouvantée en son cœur. Pourtant, elle dit « Nous le lui devons à cause de sa grande fidélité. » Alors il se réjouit de voir qu'elle avait eu la même pensée que lui. Il alla à l'armoire, l'ouvrit, fit sortir les enfants et le fidèle Jean et dit « Dieu soit loué, il est délivré et nous avons retrouvé nos fils. » Et il lui raconta ce qui s'était passé. Alors ils vécurent ensemble et furent heureux jusqu'à la fin de leur jour.